Bien le bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes rendus à l'édition du vendredi 8 février 2019. Alors, c'est Hélène Bédard qui vous parle et avec moi en studio, Francine Forget. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ah, numéro un.
Oui, avez-vous vu des marmottes en vous en venant?
Non, j'ai vu des gros trous d'eau.
Ah, ben moi, j'ai cru en apercevoir. C'est peut-être mon imagination. Alors, ce dont je vais parler ce matin, c'est très loin des marmottes, de certaines tendances marketing qui rejoignent évidemment les médias sociaux, etc., de ces courriels-là qu'il faut toujours classer, trier, etc., des petits rappels, des choses. Partie d'émission, une belle entrevue.
Oh, ben merci beaucoup, Francine. Et un beau bonjour à Mathieu qui est à la régie.
Bonjour, bonjour.
Notre fidèle Mathieu. Alors voilà, après la courte pause, nous vous revenons avec nos sujets. Quant à moi, je vais vous parler évidemment de mon sujet, des seniors, les gens que j'affectionne bien, puisque j'en suis déjà. Et je vais vous parler de la ligne aide-abus et les effets de l'art sur les aînés et d'autres belles petites nouvelles des trouvailles que j'ai arrachées à certaines éditions Internet. À tout de suite! Francine, amenez-nous avec vous.
Oui, du côté des tendances marketing. Pour ce faire, je suis allée voir du côté du site Internet d'Infopresse. Alors, qu'est-ce qui se passe en marketing du côté ce qui se passe en marketing en 2019? La renaissance des centres commerciaux. Alors, je commence avec ça. La forte croissance du magasinage en ligne contraint inévitablement les centres commerciaux à se réinventer pour survivre. Si les grandes surfaces font progressivement place au divertissement, les boutiques cherchent à s'inscrire dans le marketing omnicanal comme une étape du parcours d'achat du consommateur en contact continu avec l'entreprise, donc peu importe l'intermédiaire. 40 % des adultes québécois font désormais au moins un achat mensuel en ligne, dévoilaient les récentes données compilées par le Cefrio. Faites-vous partie de ce 40 % Hélène?
Oui, c'est à ça que j'essayais de réfléchir. Mais oui, j'aime ça.
Oui, bon. Ce taux était à 28 % il y a 5 ans.
Oh!
Alors, ça progresse quand même assez rapidement, compte tenu, je dirais, des réserves que nous avions. Madame Caroline Lacroix, qui est vice-présidente de communication et marketing de Comnar, accuse toutefois un certain mythe entourant la baisse de l'achalandage des centres commerciaux. Elle estime que le commerce en ligne alimenterait le brick et mortier. Alors, c'est contraire à ce qu'on peut penser. Les consommateurs étant mieux informés puisqu'ils magasinent plus. Regardons le comportement d'un acheteur de bottes. C'est le parcours, en fait, qui a changé du tout au tout. C'est plus complexe. Ce éventuel acheteur de bottes va commencer bien souvent par chercher sur les réseaux sociaux, où il va puiser son inspiration d'amis ou d'influenceurs. Ensuite, il poursuit sur les divers sites de boutiques spécialisées ou non dans la chaussure. Le consommateur se déplace ensuite en magasin avec une idée précise en tête. Le vendeur agit comme un autre canal de communication, l'expérience en magasin étant tributaire du commerçant. Une fois la paire de bottes achetées, le client peut recevoir un courriel lui proposant une réduction ou un aperçu de la collection à venir, par exemple, quand ce n'est pas une demande d'évaluation de son expérience en magasin. Mieux outillé, le consommateur se déplace dans les centres commerciaux avec un objectif d'achat. Afin d'accroître la rétention de la clientèle, Mme Lacroix propose le « retailment », contraction des mots « retail » et « entertainment ». Cominar et groupe financier BMO soutiennent conjointement le développement d'un projet par la firme technologique spécialisée en divertissement Phenomena, une expérience en réalité virtuelle dont vous êtes le héros, axée sur le livre des morts de l'Égypte antique. Le projet immersif va être présenté dans les centres commerciaux du fonds de placement immobilier. Comme Cominar offre plusieurs concepts de réalité virtuelle ou de défis d'évasion, Des composantes se grefferont de plus en plus naturellement aux centres commerciaux, indique Mme Lacroix. En fait, cette étape de se rendre dans les centres commerciaux va devenir une expérience. Hein? Aujourd'hui, tout doit être expérience. En plus d'attirer une clientèle différente, souvent plus jeune, la vice-présidente croit que les zones de divertissement amélioreront l'expérience de magasinage, surtout combinée à une offre alimentaire intéressante. Ça aussi, on remarque que tous les food courts, comme on disait en bon québécois, changent énormément. Plus de bio, moins de fast-food, des endroits plus intéressants où on peut recycler un certain nombre de matières.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, cette expérience très renouvelante, très complexe, évidemment, a pour but d'inciter à demeurer plus longtemps dans les centres commerciaux et que le consommateur puisse combler ses besoins. Tendance marketing sur le site d'Infopresse, j'ai repéré cet article le 28 janvier 2019. L'effet printemps me fait déjà passer à l'été, vous voyez.
Mais oui, même si ça avait été de juillet, ça aurait été excellent pareil. Eh bien, moi, je vais faire du millage sur le centre d'achat pour vous. Parce que au mois de janvier dernier, il y a eu beaucoup, beaucoup de souhaits. Et voici la question. Faut-il se souhaiter une belle ou une bonne année 2019? Belle question, hein?
Les deux. Les deux.
Nous allons voir. Marie-Catherine Lavissière, à l'École de management de Normandie, nous en parle. Donc, comme je le disais, au cours du mois de janvier, les traditionnels vœux ont été marqués par une abondance et une tendance à se souhaiter une belle plutôt qu'une bonne année. Est-ce que c'est juste une mode langagière ou révélateur d'une évolution plus profonde de notre société? Allons voir, allons un peu décrypter tout cela. Donc, fini l'ère du bon, voici l'ère du beau.
Beau. Bon.
Ceux qui adhèrent aux théories linguistiques précisent que c'est une sorte d'emballage qui cache, le même cadeau que « bonne année ». Pourtant, « belle année » ne dit pas exactement la même chose que « bonne année ». Que dire « bonne nouvelle » ? À partir de là, trois pistes s'offrent à nous. La remotivation du signe, c'est la première piste. Qu'est-ce que c'est ? Alors, nous nous fatiguons des mots que nous utilisons, alors nous remettons du contenu. Deuxième piste, l'orthonymie des mots. En d'autres mots, « belle année », c'est une expression frappante car elle nous surprend. Nous nous attendions à une autre expression plus orthonymique comme « bonne année ». Et la dernière piste, c'est le retour aux sources. Même si l'on cherche à faire ce qui est nouveau, on revient donc à nos origines. Voyons voir un peu plus. Peut-être que les langues latines ont vu une complémentarité dans cette paire « belle » et « bon ». Même consonne au début de la syllabe et consonne liquide en fin de syllabe dans les deux cas. « Bonne » ou « bon » et « bonne » comme une expression sonore fermée par rapport à « beau » et « belle » qui exprime l'ouverture et donc l'extérieur. C'est assez intéressant, n'est-ce pas, Francine?
Très intéressant, mais je ne suis pas sûre qu'on a le temps de passer à tout ça quand on souhaite nos bons voeux.
Vous l'avez évité! Donc, l'année 2019 sera-t-elle belle? Ce qui est certain, et c'est peut-être ce qui nous ramène peut-être inconsciemment, au lien que la langue française a choisi de maintenir entre les concepts de bonté et de beauté, tout en refusant de les fusionner. Alors, c'était un texte amusant, de réflexion, qui vient de l'édition du soir Ouest-France, paru très, très récemment, février 2019, au début du mois. Et c'était écrit par Marie-Catherine Lavissière, de l'École de management de Normandie. Voilà.
Belle bénévole, bénie du ciel, moi, je raffole de toi, ma bénévole. Tu m'as offert ton amour sans rien me demander en retour. Et tu tiens parole. Oh, 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 oh. Tu as pris pitié de ma cause. n'y avait personne pour m'aimer. Tu dédies à moi presque sans pause. J'aurais jamais pu rêver que quelqu'un m'aime volontiers. Sur ta tête, ma bénévole. Ça me demandait une scène, comme une bonne samaritaine. Tu me cajoles. Oh 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 oh. Tu sais que ton temps est précieux, mais tu te dévoues sans compter les heures. Je vois le soleil. Qu'on se colle, je n'aurai aucun bémol. Tu m'aimes généreusement, même si j'ai pas beaucoup d'argent. Tu dois être folle, comme je suis fou de toi. Tu as pris pitié de ma cause. Quand j'étais en manque d'affection,
une chanson qu'on aime beaucoup ici, Belle bénévole de Damien Robitaille.
Oui, qu'on l'aime, hein? Oui, effectivement. Francine, vous allez nous parler de clonage.
Je poursuis effectivement avec le clonage de voix dont on a déjà parlé récemment à quelques reprises. Infopresse Communication sur son site Internet nous dit que ce sera un terreau fertile pour le marketing en 2019. Faire parler des gens décédés, choisir la voix d'un être cher comme assistant personnel ou pour réciter un livre. Les technologies vocales ont à ce point progressé qu'il est maintenant possible de concevoir une copie de la voix d'un individu à partir de quelques minutes d'enregistrement. Alexandre de Bébrisson, qui est cofondateur de l'entreprise émergente Lyrebird, dont on a déjà parlé d'ailleurs ici, explique les applications possibles en marketing. L'année 2016-2017 a été marquée par les nombreux investissements en intelligence artificielle à Montréal, plus précisément à l'équipe de Joshua Bingjo. Parmi eux, Alexandre de Bébrisson, qui était étudiant à ce moment-là, qui a décidé en juin 2017 de cofonder cette entreprise Lyrebird, qui se spécialise en synthèse vocale, c'est-à-dire qu'elle transforme du texte en de la voix. Alors, non seulement attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on écrit. Contrairement à Apple et à Google, qui produisent quelques voix artificielles pour les rendre aussi naturelles que possible, Lyrebird se penche plutôt sur la création d'une multitude de voix. Pour y arriver, l'entreprise a inventé une technologie qui permet de cloner la voix de quelqu'un à partir de quelques minutes d'enregistrement, puis de créer une voix qui lui ressemble pour lui faire dire potentiellement des choses qu'il n'a jamais dites.
Ah!
Comme il n'y a pas si longtemps, le clonage de la voix était impossible à imaginer, Lyrebird en a quelque sorte créé ce besoin. Et ce ne sont pas seulement les entreprises technologiques qui approchent la jeune pousse, tous les secteurs y voient un intérêt certain, du fabricant de grille-pain qui cherche une voix unique pour son appareil, aux entreprises de jeux vidéo qui tentent d'utiliser la voix de leurs utilisateurs dans un jeu. La technologie va encore plus loin. On arrive maintenant à partir d'un enregistrement de quelqu'un dans une langue pour le faire parler dans une autre langue, ajoute-t-il. Si l'on pense au doublage de films, on pourrait ainsi très bien voir un film doublé en français qui met en vedette Brad Pitt. Avec sa voix, sans accent américain évidemment. Des gens ont également approché l'entreprise en démarrage pour utiliser la voix de leurs proches comme voix pour leur assistant vocal. D'un point de vue marketing, ça peut être intéressant d'utiliser une voix qu'une personne connaît plutôt qu'un inconnu. La technologie pourra également, dans un avenir à court terme, reproduire des chants, un domaine toutefois dans lequel ne se spécialise pas Lyrebird, mais dont le cofondateur voit des percées prochaines. Si l'on arrive à faire chanter les voix, on pourrait en contrôler l'intensité. Alors moi, je chante très mal. Mais ça veut dire que je pourrais devenir presque une cantatrice. Intéressant. Ouais, et vous, Hélène, ça vous intéresse?
Oui, parce qu'ils m'ont déjà sorti d'une chorale, je fausse trop. Imaginez mon plaisir.
Il n'y en aura plus bientôt. Alors bientôt, nous allons faire cette émission en chantant. On ne vous dit pas dans combien de temps, par exemple.
D'accord, surprise!
C'est ça, oui, ce sera une réelle surprise. Le secteur des livres audio pourrait certainement profiter des avancées dans ce domaine. Sur certains sites d'information, comme le quotidien New York Times, je m'excuse, on a de plus en plus la possibilité d'entendre la version audio d'un article avec une voix. Pour le moment, c'est une voix imposée, mais très bientôt, les gens pourront utiliser la voix qu'ils préfèrent ou celle de l'auteur du texte. Avec ce progrès se posent bien évidemment de nombreuses questions d'ordre éthique et juridique, c'est toujours comme ça avec les développements technologiques, oui. Notamment sur les droits d'utiliser la voix d'une personne vivante ou décédée, des façons de reconnaître une voix clonée d'une voix réelle et bien d'autres répercussions encore méconnues. Alors sur le site d'InfoPresse, 28 janvier 2019, le clonage de la voix dont on n'a pas fini de parler.
Est-ce que vous êtes cloné ce matin, vous, ou c'est vraiment vous?
Je ne sais pas. C'est terrible.
Oui, eh bien voilà, ça n'a pas fini de susciter des discussions, votre dernier sujet, Francine. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'une recherche, le résultat, en fait, d'une recherche clinique unique au Canada sur l'effet de l'art sur les aînés. C'est une étude qui a été réalisée au Musée des beaux-arts de Montréal. C'est d'ailleurs de ce musée que j'ai obtenu cette publication. Et aussi menée par le Centre d'excellence sur la longévité de McGill et de l'Hôpital général juif. Et tout cela pour faire état des bienfaits de la médiation culturelle sur la santé des aînés. Bon, je m'explique. Ces travaux scientifiques ont pour objectif d'évaluer les effets d'une activité culturelle sur le bien-être, sur la qualité de vie et sur la santé des aînés. L'étude a été réunie, donc, 150 personnes de 65 ans à 94 ans, à raison de 2 sessions de 3 mois et sur une base de 18 questionnaires d'auto-évaluation par le participant. L'effet saillant. Certains bénéfices ont augmenté avant et après l'atelier et sont demeurés durables et cumulatifs d'un atelier à l'autre. Le niveau de bien-être a été supérieur à la fin de chaque atelier. L'ampleur de l'amélioration est restée inchangée durant tous les ateliers de la session de 3 mois. La qualité de vie a progressé régulièrement et graduellement pendant toute la durée de la session et, au bout du compte, il y a une preuve que la participation aux activités artistiques offertes par le Musée des beaux-arts de Montréal influence sur la santé des participants. À l'issue des 3 mois de médiation culturelle, les participants ont vu une nette amélioration de leur état de santé dans l'ordre de 27 %. Quand même fameux. Nous engageons donc en 2019 une grande recherche internationale en partenariat avec 10 institutions de recherche couplées à des musées situés au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en France, au Royaume-Uni, au Japon, en Israël, en Australie, à Singapour et à Taïwan. J'arrête parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter.
Est-ce qu'on pourrait dire international?
Ça pourrait être ça, merci. Et j'avais du plaisir à nommer tous ces endroits qui s'intéressent à ce fait. Les musées, parce que ça dit que dorénavant, les musées sont des acteurs publics de santé. Ça, c'est bien. Alors, comment ça se passe? C'est les beaux jeudis du Musée des beaux-arts. C'est des populaires rendez-vous hebdomadaires qui ont conquis plus de 14 000 retraités depuis leur création seulement depuis 3 ans. Quand même! Alors, donc, comme je vous le disais, chaque jeudi, il y a des activités en lien avec les collections, les visites libres, les visites guidées, des ateliers de création artistique. Et donc, après la première recherche 2018, celle de 2019 fait donc place à une seconde étude. Si cette recherche vous intéresse, il faut simplement avoir 65 ans et plus, disposer d'une connexion Internet à domicile, ainsi que d'un téléphone intelligent ou d'une tablette ou d'un ordinateur personnel, et ne pas avoir participé à la première étude. Faites part de votre intérêt en vous inscrivant sur le site du Centre d'excellence de la longévité. C'est une excellente étude, c'est une excellente nouvelle. Moi, c'est sûr, j'y participe. Ça vient. Donc, c'était un texte qui vient du Musée des beaux-arts de Montréal. Ça vient d'être publié, tout juste. C'est chaud encore. Et c'est l'effet de l'art sur les aînés.
C'était évidemment Claude Dubois et sa chanson « Artiste ».
Merci.
Un plaisir.
Francine, cette fois-ci, vous allez nous parler de
diverses choses, deux sujets avant de clore la première partie de l'émission. Peut-être que vous aurez à rajouter votre fion, comme on dit. On verra.
Et je m'en priverai pas.
Premièrement, vous m'aviez posé une colle la semaine dernière. Que fait-on avec les piles et batteries recyclées?
Oui!
Alors, rappelons-nous que je vous avais lu un article qui faisait état, je vous dirais, de la bonne performance des Québécois en matière de recyclage de piles et batteries. En fait, nous étions les champions canadiens. On pourrait encore s'améliorer, mais on n'était pas pire pantoute, comme on dit.
Oui, ça m'avait particulièrement séduit. Et du coup, je voulais savoir ce qui faisait tant avec le produit.
Je vous réponds, peut-être la réponse ne sera pas totalement satisfaisante parce qu'elle reste vague. On récupère les métaux qu'ils contiennent et on les réutilise dans la fabrication d'autres produits, d'autres objets qui requièrent ce type de métaux-là. Donc, c'est un recyclage de métaux. On fait l'extraction des métaux.
Donc, c'est très sélectif. Ils vont chercher, je ne sais pas quel métal qu'il y a là-dedans, de l'aluminium probablement, enfin.
Je vais m'arrêter ici. Et si vous me posez d'autres colles, je n'y répondrai pas. Je ne suis pas une scientifique d'emblée et je ne voudrais pas dire des choses qui sont totalement fausses ou risibles.
Okay. Mais par bonheur, ils ne sont pas mis en vrac dans une autre. Ils prennent d'une poubelle puis les mettent dans une autre. M'excuse, mais là-dessus, je suis.
C'est ce qu'on dit. Mais c'est tellement complexe, cette question du recyclage. Je me suis amusée à chercher la réponse.
Oui, OK. Vous êtes bien gentille.
Au départ, je lisais quelque chose et à un moment donné, on parlait d'un centre de recyclage. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ici, ça. Et non, j'étais en France. Alors, j'ai dit non, il faut que j'aille voir au Canada. Je suis allée voir au Canada et j'étais en Ontario et encore une fois, c'était autre chose. Et ensuite, je Google Québec avec tous mes mots-clés. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir une réponse québécoise. C'est pas simple.
Non, c'est pas simple. C'est ça qui est étonnant dans tout ça. C'est difficile de suivre où ça va. Bon, je mets ma pile dans un réceptacle à cet effet. Puis j'aimerais ça le suivre, là. OK? Puis ça commence à devenir très compliqué. En tout cas, je m'en rends bien compte, malgré votre excellente bonne volonté. De vouloir me répondre. Bon, écoutez, on s'amuse pas du sujet, c'est qu'on cherche vraiment à trouver des réponses, puis pourtant, on fouille partout, on a de la misère. Mais bon, en tout cas, on va poursuivre. On est vaillante et on est persévérante.
On avance quand même dans notre apprentissage. Oui.
Bien, à cet effet, je vais vous laisser quelques instants, seulement quelques instants. Restez avec nous. Nous vous revenons après cette courte pause avec d'autres sujets tout aussi intéressants. À tout de suite. Ah, je suis contente, vous êtes encore avec nous. Merci beaucoup. Nous poursuivons donc avec un autre sujet chouchou d'œuvre avec Francine.
Un résumé, un aperçu peut-être de cette longue entrevue qu'une Canadienne extraordinaire, Donna Strickland, dont on a pas assez parlé, selon moi, qui a remporté le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les lasers. Un article intitulé « La modeste révolutionnaire », alors c'est peut-être pour ça qu'on a peu entendu parler de Mme Strickland. Alexis Riopel l'a rencontrée et a publié cette entrevue dans l'édition de janvier-février 2019 de Québec Science. Quand Gérard Mourou, son superviseur au doctorat, a demandé à Donna Strickland de fabriquer un laser radicalement différent de ce qui existait alors, elle lui a répondu « C'est facile. Ça ne constitue même pas un sujet de thèse. » Je peux lui dire aujourd'hui qu'elle avait raison, écrivait M. Mourou en octobre dernier. C'était pas un sujet de thèse, c'était un sujet de prix Nobel. Le duo a gagné la plus prestigieuse récompense en physique, QV 2018, pour avoir ouvert la voie aux impulsions laser les plus courtes et les plus intenses jamais créées par l'humanité. Depuis la publication en 1985, d'un article détaillant l'amplification par dérive de fréquence, des millions de chirurgies de correction de la vision ont été rendues possibles grâce à cette technique. Scientifique discrète et pragmatique, Donna Strickland s'est retrouvée du jour au lendemain sous les feux de la rampe. La question d'Alexis Riopel à Madame Strickland, « Comment avez-vous appris que vous remportiez le prix Nobel? » Le comité Nobel appelle toujours les lauréats au même moment de la journée vers 5 h du matin dans notre fuseau horaire. Je dormais. Quand j'ai entendu le téléphone sonner, j'ai tout de suite pensé à mes enfants. Rapidement, mon mari a décroché et m'a dit que quelqu'un voulait parler à la professeure Strickland. Ça m'a rassurée. On m'a alors dit que c'était un appel important de la Suède. Je savais que le prix Nobel était décerné ce jour-là, mais je ne pensais certainement pas le gagner. Comment fonctionne l'amplification par dérive de fréquence? En fait, ce sont les travaux de Mme Strickland. L'idée, c'est de produire des impulsions très intenses, mais seulement à la sortie du laser. Si la densité de photons à l'intérieur du dispositif est trop grande, cela pourrait le détruire. Dans notre expérience de 1985, nous avons donc étiré une impulsion de 150 picosecondes, des picosecondes, ou millièmes de milliardième de seconde, à environ 300 picosecondes. Ensuite, on l'a amplifié grâce à une seconde source d'énergie. Puis, on l'a compressé à l'aide d'une lentille afin d'obtenir l'impulsion la plus courte possible, 2 picosecondes. La densité de photons est alors énorme et le faisceau est prêt à donner une volée à un atome. Elle s'exprime, je dirais, très clairement, de façon imagée. C'est une très belle entrevue, mais malheureusement, je ne pourrai pas la lire au complet. Je poursuis quand même avec une dernière question. Quelles sont les applications de cette technique aujourd'hui? Madame Strickland répond, vous avez peut-être déjà vu ces vidéos sur YouTube où un faisceau laser coupe de l'acier comme si c'était du beurre.
Oui.
C'est pas juste la science-fiction, ça. C'est ça. Alors, sur YouTube, là, on est vraiment là, dans le concret, dans le réel. L'amplification par dérive de fréquence est complètement différente. En fait, il n'y a pas plus d'énergie dans une seule impulsion de notre montage de 1985 que dans un pointeur laser qu'on active pendant une seconde. Cependant, cette énergie est extrêmement concentrée et ne frappe qu'un tout petit volume d'un micromètre sur un micromètre, soit à peu près la taille d'une longueur d'onde de lumière. Ainsi, l'amplification par dérive de fréquence permet de faire du travail de précision, comme usiner de petites pièces d'électronique ou effectuer des chirurgies oculaires. La fascinante Donna Strickland, rencontrée par Alexis Riopel, je répète, c'est un aperçu malheureusement bien bref de l'entrevue publiée dans l'édition de janvier-février 2019 de Québec Science.
Et moi, j'ai une demande.
Oui.
Vous nous en reparlerez, s'il vous plaît.
La semaine prochaine.
Merci. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans un site qui s'appelle avenue.ca. C'est sur Internet. Alors, ça s'appelle Roots, comme racine. C'est une urne funéraire pour transformer les cimetières en forêt. Je vous en parle. C'est un article par Julie Chaumont. Donc, comme je vous le disais, c'est avenue.ca. C'est vraiment un wow du jour, cela là. Que diriez-vous de vous transformer en arbre à la suite de votre décès? C'est une idée écologique et surtout très poétique, proposée par une compagnie québécoise qui s'appelle Muse Urne Design. La mort nous effraie tous un peu, ça c'est sûr. On se dit toujours, qu'est-ce qui va rester de nous après notre passage ici? Comment adoucir la peine de ceux qui restent? Muse Urne Design a une brillante idée, c'est-à-dire ils ont conçu une urne funéraire qui se transforme en arbre. Ils ont d'ailleurs gagné le prix du développement durable et le grand prix du design. Le deuil, c'est un processus difficile et je crois que l'espoir créé par l'arbre qui amorce sa croissance symbolise donc la vie qui continue. Urne Design a mis près de 2 ans pour concevoir cette urne funéraire au design très épuré. Des centaines de tests ont été nécessaires afin de trouver les matériaux naturels et inoffensifs idéaux qui permettraient une croissance optimale de l'arbre. Certifié produit funéraire, il est composé donc de 2 parties. La partie supérieure, faite en terre argileuse,
où on peut mettre une plaque commémorative au nom du défunt. Et la partie inférieure, faite de mélange de chaux, d'argile et de marc de café qui contiennent les cendres du défunt. On y ajoute 3 graines de 3 essences d'arbres, le pin sylvestre, le catalpa speciosa et le robinier faux acacia. On y ajoute également un bâtonnet d'engrais spécialement mis au point pour permettre de neutraliser le pH élevé des cendres et de favoriser la croissance de l'arbre une fois celui-ci mis en terre. Donc, peu importe la saison ou le moment du décès survient, on suggère de commencer la plantation à l'intérieur, donc à la maison. Après quelques mois, l'arbre peut être mis en terre. La conception de l'urne en deux parties distinctes permet donc d'inhumer l'urne au cimetière, si vous avez une place disponible, un lot disponible au cimetière, et vous plantez l'autre partie, donc l'arbre, dans un autre endroit où vous pouvez les planter ensemble. Il y a même un modèle pour les animaux de compagnie. Alors voilà, c'était un sujet fort intéressant, une avenue, ça porte son nom, avenue.ca. Donc, c'est une avenue intéressante pour une urne funéraire pour transformer nos cimetières en forêt. Je vous le rappelle, Julie Chaumont, et c'est apparu dans cette édition Internet.
Trimballé par le vent, limité à passer sa vie dans le ciment. L'arbre essuie l'air du temps, poumon de la terre, arrosé par la pluie et par les chiens du quartier. Il se tape et embellit le teint gris. T'es le plus hard. Oui, l'arbre dans la ville a parfois les idées noires, mais la vie n'est pas que vile et méchante, limitée à passer sa vie sur le trottoir. Se fait un plaisir de mater les passantes. Yeah.
Yann Perrault, l'arbre dans la ville.
Nous allons continuer et nous allons essayer de survivre à quelque chose. Francine Forget nous en parle.
Hélène, pour faire du pouce sur ce que vous avez dit un peu plus tôt en première partie d'émission, je ne sais pas si c'est une belle ou bonne année. Je prétends que c'est les deux. Il reste qu'à chaque année, on revient avec certains sujets et celui-là, bien, il est inévitable à mon avis. On en parle aujourd'hui, on va essayer de ne pas en parler trop souvent au cours de l'année. Survivre aux courriels qui nous submergent. Olivia Lévy, qui a fait un article dans la presse plus le 27 janvier 2019. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est envahi par les courriels. Selon une étude de McKinsey Global Institute, on consacre en moyenne 28 % de sa semaine de travail à lire, répondre et envoyer des courriels. Semaine de travail. On ne parle pas des courriels personnels. N'avez-vous pas le sentiment que votre messagerie déborde en tout temps et qu'il est de plus en plus difficile de la gérer malgré tous vos efforts? On n'utilise plus du tout le téléphone. Tout se fait par courriel et par texto. Alors c'est pour ça qu'on se sent envahi, lance Manon Poirier, qui est directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Le niveau de stress augmente lorsqu'on a trop de courriels en souffrance. Et d'ailleurs, le soir et le week-end, beaucoup de gens y répondent parce qu'ils n'ont pas le temps autrement.
C'est vrai.
Oui, on dirait que ça va nous faire du bien, sinon ça va nous trotter dans la tête, comme on dit. On valorise aussi le fait de répondre rapidement. C'est une grande problématique que cette hyper-connectivité, parce que c'est la conséquence, effectivement. En 2018, 281 milliards de courriels ont été envoyés et reçus chaque jour dans le monde entier.
Voulez-vous répéter le chiffre, s'il vous plaît?
281 milliards. En 2022, on projette que ce sera 333 milliards selon une étude de Radicati Group, qui est une entreprise spécialisée dans la recherche numérique. Selon Caroline Sauvaiole-Rialan, qui est spécialiste en gestion de l'information en entreprise, cet excès de communication par courriel est lié à la facilité déconcertante de cette technologie. On peut envoyer un courriel à n'importe qui dans le monde, 24 heures sur 24, toute l'année. « Je peux refuser un appareil téléphonique, mais pas un courriel », dit-elle. Et attention, nous sommes les premières victimes de l'abondance de courriels, mais aussi les premiers acteurs, car on en envoie beaucoup. C'est ça le problème, c'est que nous créons le problème. Et au rythme où va la société, on ne tolère plus les réponses tardives. Il faut répondre dans les 3 heures, estime-t-elle. Les codes de n'étiquette, comme on appelle d'ailleurs, recommandent de le faire dans ce laps de temps. Le courriel n'a pas été créé pour traiter des urgences, même si cette idée est très répandue, souligne Sylvie Azoulay-Bismuth, l'auteur du livre « Être un pro de l'email » et fondatrice du site Le Français des pros. Vous n'êtes pas accroché à votre courriel 24 heures sur 24. Pour toute urgence, il faut téléphoner, dit-elle. Elle cite une étude qui a démontré que le délai moyen de réponse à un courriel se situe entre 24 et 48 heures. Alors donc, malgré tout, toute notre bonne volonté, on n'arrive pas en 3 heures. D'ailleurs, bien qu'on soit submergé, devons-nous répondre à tous nos courriels ou presque, dit-elle. Oui, ça prend moins de temps, moins de deux minutes, je m'excuse, et c'est une question de politesse et d'image, la vôtre. Ça libère votre cerveau et celui de vos interlocuteurs. De toute façon, on va vous relancer et ce sera un courriel de plus à gérer si on ne fait pas le suivi, souligne Mme Bismuth.
Effectivement.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas se noyer dans cette abondance de courriels? La première chose que tous les spécialistes conseillent est de fermer la boîte de courriels quand on travaille afin de ne pas être constamment déconcentré. Le défi, c'est de ne pas les consulter tout le temps. On recommande aussi de les consulter à des périodes ciblées et non pas de regarder sa boîte à longueur de journée. Sylvie Azoulay-Bismuth, l'auteur du livre est un pro de l'email dont j'ai parlé tantôt, prône aussi la discipline et une gestion intelligente de ses courriels. Elle conseille par exemple de créer des règles de classement, de se désabonner des publicités et fameuses infolettres, d'arrêter de mettre en copie tous les collègues et surtout de cesser de répondre à tous, ce qui constitue un véritable fléau qui encombre les boîtes de courriels. Je vous dirais, dans la suite de la semaine dernière où je vous ai parlé de Mme Kondo, qui est la spécialiste du ménage, du tri, du rangement et du classement.
Et de l'épuration.
Alors voilà, cette semaine, c'était une application pour les courriels, survivre aux courriels. Olivia Livy dans la Presse Plus du 28 janvier 2019.
Un sujet très actuel.
Toujours.
Eh bien, moi, contrairement au courriel, je vais vous parler de tenir un journal. Voilà. Alors, c'est une autre page, un autre monde.
Toujours des mots écrits, cependant.
Oui, hein? Toujours.
Oui,
toujours.
On est dans la suite. On est dans la suite.
Et un journal pour dire merci. Bon, merci à la vie, merci à quelqu'un. Pratiquer la gratitude au quotidien et voir le bon côté des choses. Il semblerait que ça aurait un impact positif sur notre santé et notre bien-être. Reconnaître et apprécier ce qu'il y a de bon dans notre vie nous rend plus joyeux, plus optimistes, attentifs et nous incite à soutenir davantage les autres. C'est pourquoi le Défi Santé vous encourage chaque jour à être reconnaissant de 3 choses positives. Quand je dis écrivez dans votre journal, évidemment, ceci peut être noté ou dessiné. Chaque jour, dans un journal personnel ou sur un petit bout de papier. Puis ce petit bout de papier, ben, vous pouvez le placer dans un bocal de merci. Le journal ou le carnet de gratitude, c'est un outil tout simple pour prendre l'habitude de reconnaître les choses positives dans notre vie. Gardez-le près de votre lit et écrivez-y chaque soir au moment d'aller vous coucher. Si vous préférez, vous pouvez, comme je vous le disais, déposer dans un bocal ou un pot des bouts de papier sur lesquels vous aurez inscrit une raison de dire merci. Merci à la vie, merci à quelqu'un, merci tout court. Merci d'avoir une si bonne santé. À la fin de l'année, vous aurez un bocal rempli de gratitude à utiliser à volonté. Mais qu'est-ce qu'on doit inscrire? Dans tous les cas, n'inscrivez que du positif. Par exemple, un événement heureux qui est arrivé, ou qui vous est arrivé, un accomplissement qui vous procure un sentiment de fierté, de gratitude. Une chose ou une personne qui vous a fait ressentir une émotion positive, de la joie, du soulagement, du bien-être. Quelque chose qui vous a fait rire. Quelque chose agréable que vous avez vu, peut-être entendu, peut-être même goûté, touché ou senti. Parions qu'il n'y a pas un jour où vous n'aurez rien à écrire parce que les petits bonheurs, ben, ils sont partout, partout, partout. Il suffit juste de les remarquer. De temps en temps, vous pourrez relire ce que vous avez noté. Ça va vous aider à vivre d'autres moments et surtout répéter ça sans modération. Relire vos petits bonheurs est également une excellente façon de voir le bon côté des choses. Finalement, bah, comme on dit, tout ne va pas si mal. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans le journal du Défi Santé qui paraît par le Mouvement de santé mentale du Québec et c'est paru en janvier 2019.
Descendu l'escalier sans même faire un soupir. J'ai croisé le miroir, entrevu un sourire endrapé de soie noire. C'était l'ange du délire. Inviting me to the pawn shop of love. Inviting me to the pawn shop of love. Shop of love, love. I'm going down to the pawn shop, pawn shop of love. Feu à mes voiles. j'aperçus un pocheur. Il dealait la folie contre un peu de bonheur. Fauché comme un clochard et que ma vie pour payer, j'ai pané notre histoire pour du rêve enveloppé.
Sonia Johnson et sa chanson « Pawn Shop of Love ».
Qu'est-ce que c'était bon d'entendre ça. Francine Forget, vous voulez nous amener où avec votre sujet maintenant?
On joue un peu moins dans les émotions avec cette citation de la semaine, une citation technologique rapportée par Karim Benessaï dans la Presse Plus du 3 février 2019. C'est Luc Julia, qui est considéré comme un des pères de l'assistant vocal Siri, en entrevue cette semaine au site Oui Demain, qui dit « Le fait que les machines puissent être émotionnelles, c'est de la science-fiction. C'est pour faire peur. Avec les techniques actuelles, qui sont des techniques mathématiques basées sur des statistiques, c'est ce que l'on fait depuis 60 ans. C'est pas possible. » Et de conclure, M. Julia, « L'intelligence artificielle n'existe pas. »
C'est gros.
Oui. C'est gros.
C'est gros. Vous allez certainement me revenir
avec
quelque chose.
Je voulais la partager avec vous.
Merci beaucoup. Moi, ce que je veux partager avec tout le monde qui m'écoute, c'est la ligne Aide à but aîné qui souligne son 5e anniversaire cette année. Qu'est-ce que cette ligne? C'est une ligne quand vous soupçonnez qu'un aîné est maltraité. En fait, je parle de maltraitance envers les personnes aînées, qui est souvent gardée sous silence, peu reconnue et peu dénoncée. Alors, cette ligne existe. Si vous voulez en parler ou si vous vous dites « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » La ligne « Aide à but aîné » existe. Surtout, ne négligez pas si vous avez le moindre soupçon. Je vais vous donner des indices, OK, qui peuvent révéler une situation de maltraitance. Échymose, blessure inexpliquée, perte de poids subite, repli de soi, dépression. Transactions bancaires aussi inhabituelles. Disparition d'objets de valeur. Voyez-vous, un indice observé n'est toutefois pas nécessairement lié à de maltraitance. Il faut toujours évaluer la situation, il faut être prudent. En appelant à la ligne Aide à but aîné, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels pour vous offrir de l'écoute, du soutien, de l'information et surtout vous orienter vers les ressources appropriées à votre situation. Ce que vous pouvez faire si vous pensez qu'une personne aînée vit une situation de maltraitance, être à l'écoute. Première des choses. Allez pas à des conclusions hâtives. Encouragez la personne aînée à s'affirmer. Évitez de prendre en charge la situation sans son accord. Évitez de montrer de la frustration si l'aîné insiste que « Non, non, tout va bien, tout va bien. » Évitez de confronter la personne que vous soupçonnez de maltraiter. Demandez s'il y a une personne à qui l'aîné souhaiterait parler. Travailleur social, un planificateur, une infirmière, son médecin, quelqu'un en qui elle a confiance. Proposez de rechercher les services locaux. Gardez en tête que vous n'avez pas à résoudre le problème. Vous pouvez simplement demander à la personne aînée, « Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez en parler? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vous croyez vivre une situation de maltraitance ou en être témoin? Ne restez pas seul. » N'hésitez pas à communiquer avec la ligne Aide à but aîné pour en parler de ce que vous vivez, de ce que vous constatez. C'est un article paru évidemment par cette ligne et ça s'appelle aussi « Ce n'est pas correct ». Alors voilà, c'était un avis à tous et à toutes. En ce moment, je m'excuse parce que c'est un article qui est quand même assez émotionnant. Alors, je vous remercie à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je remercie Mathieu, fidèle Mathieu à la régie. Je remercie beaucoup Francine Forget, fidèle, très, très, très fidèle collaboratrice. Merci, Francine.
Merci, Hélène, également. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'on soit presque rendu à l'été si on continue... Non?
Vous avez
si on continue le cheminement que nous avons commencé ce matin, non?
C'est magnifique, votre optimisme. Merci beaucoup. Bonne santé, bonne semaine à tous.